Panorama Économique.
La grève des transporteurs sur l'axe Boma-Matadi-Kinshasa a été levée depuis dimanche dernier. Les activités ont bel et bien repris. Les boulangeries de Kinshasa affectées par la grève ont repris leur production habituelle. La GECAMINE a acquis récemment la totalité des parts de la SOMIDEC. Des gisements dont les réserves de plus de 5 millions de tonnes de cuivre permettront à cette entreprise d'augmenter sa production jusqu'à 2000 tonnes de cuivre par an. Et puis de magasins appartenant aux expatriés ont été scellés à Kinshasa et à Kisangani sur ordre du ministre de l'économie. Il est reproché à ces opérateurs économiques d'exercer le petit commerce alors que ces domaines sont réservés aux nationaux. Panorama économique reçoit aujourd'hui M. Crispin Malingumu, assistant à l'université de Kinshasa aux facultés de sciences économiques. C'est pour analyser et commenter avec nous l'actualité économique de la semaine. Bon, Monsieur Malingumu, bonjour.
Bonjour.
Panorama économique, le dossier.
Le dossier de la semaine, la grève des transporteurs routiers opérant sur l'axe Kinshasa-Bakongo a été levée le week-end dernier. Les activités ont repris lundi au niveau des entrepôts, garages et ports internationaux de Matadi.
À Kinshasa, la grève avait occasionné sur le marché la hausse de certains produits en provenance de cette partie du pays. Notre consoeur Nadine Foula s'est rendue lundi matin à Matadi-Kibala, principale gare routière à l'entrée de la capitale. Son reportage.
De Mitendi à Matadi-Kibala, où nous nous sommes rendus cet avant-midi, dans l'espace de 2 heures du temps, nous avons enregistré 11 conteneurs de 40 pieds venant de Matadi. Certains transportaient des produits tels que le maïs, le foufou, la farine de blé, du ciment et un autre des vivres frais. Un chauffeur rencontré sur place que nous avons interrogé a confirmé qu'ils avaient reçu le mot d'ordre de lever la grève depuis hier à 11 heures. Il faut donc attendre jusqu'à mercredi pour avoir un trafic normal. Le temps que le conteneur bloqué à Matadi s'est dégage complètement. Pour ce qui concerne les prix de produits tels que la farine de blé et les vivres frais, ces derniers ont gardé le même prix. Une rame de poisson chinchard qui s'est vendue à 30 000 francs pendant la grève n'a pas bougé. Par contre, le prix de la farine de blé a sensiblement baissé. Des 62 000 francs pendant la grève, la farine s'est négociée depuis ce matin à 45 000 francs. Soulignant que la situation continue à évoluer, il faut donc patienter pendant 2 à 3 jours pour être fixé sur les prix.
Reportage de Nadine Foulantimba, diffusé lundi dans l'émission Écho d'économie. Avec la levée de la grève, les spéculations ont cessé à Kinshasa sur le prix de certains produits de grande consommation, dont le pain. Et puis le port de Boma, parmi les conséquences, a perdu 80% de ses recettes pendant toute la période de la grève des transporteurs routiers. On se tourne directement vers notre invité, Monsieur Malingumu. Vous venez de suivre ces reportages de notre consoeur et vous avez aussi suivi pendant 2 semaines toutes ces informations concernant la grève des transporteurs routiers. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Hein. C'est une bonne chose que finalement soit levée cette grève parce que il y a eu quand même beaucoup de conséquences dues à cette situation.
Oui, exactement. La levée de la grève, c'est une très très bonne chose, puisque comme on a pu le constater, avec cette grève, beaucoup de spéculateurs ont profité pour faire hausser les prix de leurs denrées. Mm-hmm. Et cela a créé des problèmes terribles pour la population quinoise.
Mais monsieur l'assistant, une question c'est de savoir si dans notre pays on avait des réserves stratégiques, est-ce qu'on serait aussi vulnérable?
Bon, les réserves stratégiques ont toujours été là, mais il faut dissocier la stratégie du secteur privé avec la stratégie publique.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire ceci, c'est-à-dire que pour le privé, étant donné que tirent profit des occasions, cherchent des occasions où ils peuvent se faire de l'argent sur les dons de la population. Certains importateurs ou commerçants profitent de la rareté pour pouvoir poser, pour pouvoir augmenter les prix. Mais au niveau public, les réserves sont toujours là. Il y a quelques réserves. Dernièrement, d'ailleurs, nous avions vu comment la réserve stratégique a inondé les marchés vers la fin de l'année.
Mais
on a vu comment. Oui.
Oui, mais s'il y avait effectivement cet abandon sur le marché, donc la rareté ne serait pas vécue, donc la hausse des prix non plus.
Oui, exactement. Oui, exactement. Je ne veux pas dire qu'il y avait des stocks suffisants qui pouvaient, disons, couvrir les besoins, qui pouvaient couvrir tous les besoins de la population chinoise. C'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai dit ceci. Les opérateurs privés tirent profit des situations de grève, ont tiré profit de la situation de grève pour pouvoir augmenter les prix.
Mm-hmm.
Oui,
Mais au contraire, il y en a eu beaucoup qui ont été pénalisés aussi par cette situation.
Exactement. Il y a d'autres qui ont été pénalisés. Par exemple, les gens qui ont pu écouler leurs stocks pendant les festivités, mais qui attendaient le renouvellement des stocks. Ces gens-là ont été pénalisés par la grève. Exactement.
Mais quelles leçons pouvons-nous tirer de ce genre de situation, cette catégorie de personnes, ces transporteurs routiers? On l'a vu, hein, on l'a compris, ils sont vraiment importants dans la chaîne de distribution de produits, mais ils ne sont pas traité à juste valeur. Quelle leçon on peut tirer de cette situation?
Oui, exactement. La leçon est que, comme nous venions de le dire tantôt, la leçon est que non seulement la rareté des prix a occasionné des manques à gagner, non seulement pour l'État, mais aussi pour les opérateurs privés. Mmh. Par exemple, au niveau des finances publiques, comme vous aviez vu, il y a cela 2 semaines que la grève a duré. Ce qui a fait que, comme vous-même vous l'aviez dit, 80% des recettes douanières ont pu échapper à la caisse de l'État. Mais ce n'est pas la seule conséquence que nous pouvons tirer. La deuxième conséquence est que, heureusement que l'autorité publique a décidé de pouvoir relancer l'agriculture. Or, si on relance cette agriculture, même s'il y aurait rareté ou s'il y aurait des opérateurs privés qui entreraient en grève, si cette agriculture est relancée, cela permettrait à ce qu'on puisse inonder les marchés. Donc, cet incident devrait servir de leçon pour activer la politique agricole que le gouvernement compte mettre en place.
Mais est-ce que cette situation ne doit pas aussi relancer les débats sur la situation ou les conditions des travailleurs en RDC?
Oui, le débat peut être relancé. Le débat peut être relancé dans chaque pays. Lorsque le privé, par exemple, décide de pouvoir employer des gens, c'est vrai qu'ils doivent se soumettre à la législation du pays. Mm-hmm. Doivent se soumettre à la législation du pays, mais le grand problème est que chaque privé a des conditions qu'il fixe à ses travailleurs.
Mais c'est là en respectant la loi.
En respectant la législation du pays.
Mais ces gens-là, on les payait 20 000, 35 000 francs congolais, pardon, alors qu'ils déplaçaient des marchandises de plus de 200 000 dollars pour une rotation.
Oui, exactement. On pouvait les payer peut-être 35 000 ou... Moi, je pense que l'idéal aurait été que ces transporteurs puissent avoir... disons une corporation qui pouvait défendre leurs droits auprès des opérateurs privés ou auprès des autorités publiques. Mm-hmm. Je ne sais pas s'ils ont une corporation ou pas, ça je ne sais pas.
Ils ont une corporation et je crois que c'est grâce à cette corporation qu'ils ont pu faire entendre leur voix. Nous allons passer au deuxième dossier de la semaine. Qui sont gagnés en province orientale? Une dizaine de magasins appartenant aux expatriés ont été scellés mardi par le parquet de grande instance sur ordre du ministre de l'économie.
Celui-ci, lors de sa mission de vérification de l'application de la mesure de l'exclusivité du petit commerce congolais avait constaté que la plupart des expatriés continuent à vendre en détail. Plus de détails avec notre consoeur à Kisangani, Godlive Omondo.
Ces opérateurs économiques étrangers dont les magasins ont été scellés doivent répondre devant la justice. Il s'agit notamment des magasins New Sara, Sagico et Gérage. Ceci après la mission effectuée par les ministres de l'économie dans la ville. La mission qui avait pour but notamment la vérification de l'applicabilité de la mesure de l'exclusivité du petit commerce au Congolais. Jean-Paul Nemoyato a constaté que la plupart des expatriés continuent à vendre au détail. Pour lui, cette opération de scellage doit se poursuivre régulièrement afin de convaincre les récalcitrants à se conformer. Cette mesure est diversement appréciée par les consommateurs ainsi que par les détaillants congolais. Pour ces derniers, la mesure doit être bien observée car plusieurs Congolais détaillants avaient été contraints d'arrêter leurs activités par manque de la clientèle. Chez les consommateurs, en revanche, c'est la déception. Pour eux, les prix de la vente au détail chez les commerçants étrangers répondaient à la bourse de la classe inférieure et même à celle des démunis. Dans la plupart des magasins appartenant aux étrangers qui n'ont pas été visités par les ministres de l'économie, c'est encore le statu quo. Ceci continue à vendre en détail comme par le passé. Cependant, quelques-uns d'entre eux sont déjà conformés à la décision. Ces opérateurs économiques étrangers se plaignent des manques de la clientèle ces premiers jours de vente en gros. Le personnel de ces magasins, de leur côté, redoute de se retrouver en chômage. Kisangani, Godlive Omondo, Okapi Economy.
Voilà, merci Godlive. On signale que la même opération a été menée vendredi à Kinshasa. Le ministre de l'économie est descendu sur terrain pour se rendre compte du non-respect de cette décision du gouvernement et a fait donc sceller des magasins appartenant à des expatriés. Monsieur Malingumu, vous êtes avec nous. Que pensez-vous de cette action du ministère de l'économie?
Oui, cette action est vraiment salutaire pour la population. Il est vrai que je disais cette solution est vraiment très salutaire pour la population, étant donné que comme le gouvernement avait déjà décidé de pouvoir attribuer exclusivement les commerces de détail aux nationaux, il fallait en réalité que l'autorité ministérielle puisse vérifier réellement que cette mesure a été est d'application. Mm-hmm. Heureusement que sa descente sur terrain a permis de pouvoir observer que réellement il y avait certains opérateurs expatriés qui n'ont pas voulu observer la mesure, mais qui ont été frappés. Une action louable.
Voilà, est-ce que le fait de sceller ces magasins appartenant aux expatriés est la seule solution? Est-ce que, quelque part, il ne faudrait pas revoir un peu la politique des investissements, donner beaucoup plus de moyens aux Congolais plutôt que de s'imposer et de mener de telles actions?
Bon, il est vrai que nous devons faire la part des choses dans cette action qui a été menée, hein, puisque d'un côté, lorsque les expatriés vendent en détail, ils pénalisent les commerçants congolais qui vendent aussi en détail. Mmh. Mais en réalité, les derniers bénéficiaires disons, du non-respect de cette mesure-là, c'est d'abord les consommateurs. Oui. C'est les consommateurs qui tirent profit. Mais l'objectif qu'on a, qu'un chaque gouvernement a, c'est celui de pouvoir protéger tout le monde. Et pour protéger tout le monde, il faudrait que non seulement les consommateurs soient protégés, mais aussi il faut que les commerçants nationaux aussi soient protégés également.
Voilà, on va passer au troisième dossier de la semaine. La bonne gouvernance et la transparence dans les secteurs de mines en RDC, état des lieux, enjeux et perspectives d'avenir. Tel est le thème central d'une conférence que le gouvernement congolais organise du 30 au 31 janvier prochain à Lubumbashi, au Katanga.
Pendant ces journées minières, il sera question de faire un état des lieux du secteur minier industriel, mais le volet artisanat de l'exploitation minière risque de passer dans les oubliettes. Pourtant, dans le Katanga, le secteur minier artisanal rencontre plusieurs problèmes et emploie plusieurs personnes. C'est notamment celui le problème lié aux coopératives minières qui, au dire des ONG qui œuvrent dans le secteur, n'ont pas su travailler pour l'émergence d'une classe moyenne. Denise Maéo, depuis Lubumbashi.
Le Katanga compte à ce jour une cinquantaine de coopératives minières. Chacune d'elles est basée dans une zone artisanale créée par le ministère des Mines. Mais plus de 5 ans après la création de ces zones, les conditions de vie des créseurs artisanaux ne se sont pas améliorées. Témoignage de Gérard, un créseur de la carrière de Mbola, géré il y a peu par la coopérative EMAC.
Moi qui vous parle ici, j'avais vendu la maison dans l'espoir que dès que j'irai vraiment travailler, j'aurai quelque chose vraiment et puis je vais me retrouver. C'est-à-dire, je suis sorti mes bredouilles. Et puis cette carrière-là, bon, on se demande, la carrière appartenait vraiment aux exploitants artisanaux. Et puis la carrière nous a été vraiment ravie ou arrachée, bon, je ne sais pas.
Si le secteur minier artisanal ne fait pas des avancées, Ngoï Mujinga, président de la coopérative minière Madini Kwakilimo, rejette la responsabilité sur l'État.
Aujourd'hui, il n'y a aucune coopérative au niveau du Katanga qui a un titre minier. Le titre, ça vous donne tous les atouts pour négocier avec les investisseurs à force égale. Il fallait nous octroyer des titres miniers, et c'est là où nous avions espéré même l'émergence de la classe moyenne.
Pour Jean-Pierre Mouteba, président de la société civile du Katanga, les coopératives minières n'ont pas réussi à promouvoir la petite mine, encore moins à faire émerger la classe moyenne.
C'est des questions sur lesquelles nous pensons qu'il ne faut peut-être pas organiser les journées minières pour des secteurs industriels qui s'organisent déjà tant bien que mal, mais organiser les états généraux de l'exploitation minière artisanale. Aujourd'hui, nous avons 2 millions de jeunes sur l'ensemble du pays qui sont dans l'artisanat, qui ne gagnent pas grand-chose. Mais ce sont les intermédiaires, les Libanais, les groupes, les entreprises qui gagnent toujours. Donc il faudrait qu'on s'organise pour qu'on sache, est-ce que nous continuons, si oui, comment.
À noter que jusqu'en 2010, le Katanga comptait environ 140 000 trésors artisanaux. À ce jour, aucun nouveau recensement n'est fait. Lubumbashi, Denise Mayor, Radio Okapi.
Monsieur Malingumu, vous avez suivi avec nous ce reportage signé Denise Mayo depuis Lubumbashi. La question qu'on se pose maintenant, on se demande si on doit encore réfléchir sur l'artisanat minier parce que, pour votre information, selon les services d'encadrement de ces artisanaux, ces métiers sont normalement appelés à disparaître ou à se transformer en petite mine, par exemple, parce qu'on dit que le métier, ces métiers ne peuvent pas apporter de croissance dans le pays. Est-ce qu'il faut-il encore réfléchir sur ces secteurs?
Oui, exactement. Il faut réfléchir. Comme eux-mêmes ont dit, c'est vrai, nous devons reconnaître qu'ils n'ont pas pu évoluer. Mais pour passer d'une classe, pour passer à une classe moyenne, d'abord, c'est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui. À mon avis, je pense que tous ces creuseurs artisanaux, non seulement, ils devaient d'abord voir dans quelle mesure pouvoir bénéficier des titres miniers, puisqu'en ayant ces titres miniers, cela les aide, les donne plusieurs avantages. Le premier avantage qu'ils peuvent espérer avoir en ayant ces titres, ils peuvent utiliser ces titres pour solliciter des emprunts auprès du système bancaire. Et cela les aidera à pouvoir améliorer leurs activités. Je ne pense pas que le fait de ne pas mener des démarches pour avoir les titres miniers, cela aussi incombe à l'autorité. À mon avis, ce n'est pas le cas.
Donc, ce sont ces artisanaux qui doivent eux-mêmes penser à leur situation, à l'amélioration de leurs conditions de travail.
Exactement. Donc, non seulement ils doivent envisager pouvoir avoir les titres miniers qui les aideront à pouvoir tirer tous les bénéfices liés à l'obtention de ces titres, mais aussi, ils doivent s'arranger à pouvoir, améliorer leurs conditions de travail. Comment? On peut se poser la question, comment ils peuvent améliorer leurs conditions de travail et passer d'une classe moyenne d'artisanat. Bon, pour qu'ils puissent arriver à améliorer leurs conditions de travail, ils ne nécessitent pas de travailler en ordre dispersé. Ils peuvent se constituer en plusieurs associations.
Mais ils sont se réunissent dans des coopératives actuellement.
Mais ils se réunissent dans des coopératives, bien sûr. Mais la question qu'il faut se poser, comment fonctionnent ces coopératives? Est-ce que ces coopératives ont une politique de promotion de ces artisanaux? Ça, ce sont des questions que l'on peut se poser.
Mais quelque part, l'État doit aussi beaucoup s'impliquer.
Exactement. L'État doit s'impliquer. À mon avis, en ayant ces associations-là, c'est sur base de toutes ces associations-là qu'ils peuvent aller négocier avec l'État pour avoir des titres, par exemple. Puisque nous, je venais de dire tantôt les avantages qu'ils peuvent tirer de ces titres.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine en bref, la Direction générale des douanes et accises devra réaliser en 2013 plus de 2657 milliards de francs congolais, soit le double de ses recettes en 2012.
Le directeur général de la douane congolaise l'a annoncé mardi à Kinshasa, c'était à l'ouverture de la 5e session des directeurs des douanes et accises, une rencontre qui, comme chaque année, évalue le niveau d'exécution des recettes douanières et accisiennes de l'exercice précédent, les assignations budgétaires de la nouvelle année ainsi que les stratégies pour atteindre ces assignations.
Le paiement des pensions de retraités dans la province de l'Équateur s'effectuera désormais par voie bancaire.
La décision a été prise mardi à Kinshasa par le ministre du Travail et Prévoyance sociale. Bati Lukwebo s'exprimait ainsi au sortir d'un entretien qu'il a accordé au député Sam Bokolombe, l'un des élus de Bassankoussou à l'Équateur. Selon le ministre du Travail, cette décision fait suite aux nombreux détournements des fonds alloués au paiement des pensions de retraite par les agents payeurs.
Monsieur Malingumu Crispin, vous êtes avec nous, vous commentez, analysez avec nous l'actualité de la semaine. Vous avez peut-être un commentaire à faire par rapport à ces informations?
Oui, exactement, comme vous veniez de dire, envisager canaliser tous les paiements des retraités par voie bancaire, c'est vraiment une solution salutaire, puisque nous avons observé certains de nos compatriotes qui se complaisent à pouvoir détourner les frais qui étaient alloués à tous ces retraités. Mais par un paiement bancaire, chaque retraité sera identifié et tous ces retraités auront la possibilité de passer à la banque pour retirer sa retraite. Et tout cela pourra non seulement améliorer d'abord leur situation, puisque tous les fonds qui étaient détournés par les agents payeurs ne seront plus détournés et seront canalisés directement à chaque bénéficiaire. Ça, c'est vraiment un point à louer, un point vraiment à féliciter.
Mais vous, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas assez de banques dans l'arrière-pays. Comment ça va se faire?
Non. Quand bien même il n'y a pas assez de banques dans l'arrière-pays, ne pensez pas que chaque retraité aura à ouvrir un compte pour lui dans chaque retraité pour une banque. Non. On pourra les canaliser, on les identifie d'abord, supposons qu'ils soient à 20 000. Tous les 20 000 peuvent être localisés ou orientés dans une banque et ils seront payés dans cette banque-là.
Panorama économique, matière première.
Matière première, la GKMine possède désormais la totalité des parts de la société minière de Dewisa et Ekaï, c'est Somidec en sigle.
La transaction a eu lieu il y a environ 2 semaines pour l'administrateur délégué de la GKMine. Le contrôle total des gisements de cuivre de Somidec pourra permettre à sa société de construire un gigantesque projet. Les précisions, c'est avec vous, Paulin Munanga.
Les deux gisements de cuivre de Deziwa et Kaïsé sont situés au sud-ouest de Dikoulou et Dima, près de Kolwezi au Katanga. D'après Kalej Kand, administrateur délégué de la GKMine, ces gisements ont des réserves supplémentaires de 5 millions de tonnes de cuivre. Cela va permettre à la société, poursuit-il, de produire au finish jusqu'à 200 000 tonnes de cuivre chaque année.
Ça va permettre à la GKMine de construire un très grand projet pour produire jusqu'à 200 000 tonnes l'an. Et la construction peut se faire en phase, en commençant avec une phase de 100 000 tonnes, quitte à continuer par la suite.
Quelle est la production actuelle de la GKMine?
Notre projet de cette année, conformément au plan quinquennat, était de produire 35 000 tonnes et nous les avons produits. Nous sommes partis de 17 000 tonnes à peu près.
Mais Kalej Kand s'est réservé de donner les montants de cette transaction. D'autres sources, par contre, font savoir que les montants envisagés étaient de 200 millions de dollars américains. Signalons qu'auparavant, la Somidec était une joint venture créée par la GKMine et Platmine Congo qui exploitait les deux gisements. Et la GKMine détenait 32% des parts avant d'en posséder actuellement la totalité. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Voilà, monsieur Malingumu, vous avez suivi cette actualité. Qu'est-ce que vous pensez du fait que la GKMine continue d'étendre ses activités et accroître sa production?
Bon, tout ce qu'on peut dire, nous savons le rôle que la GKMine a joué sur le plan macroéconomique dans ce pays. À l'époque où la GKMine produisait 450 000 tonnes, la GKMine contribuait au budget de l'État à plus de 70%. Et à part cette contribution au budget de l'État, la GKMine, par ses recettes de vente, permettait au pays de pouvoir se constituer des réserves d'échange qui permettaient la stabilité de la monnaie. Le fait que la GKMine vient d'acquérir ou bien de récupérer, d'avoir les 100% de parts sociales des Somidec, c'est déjà une très bonne chose. Comme vous venez de suivre l'administrateur délégué de la GKMine, il vous dit qu'ils ont pour objectif d'atteindre 200 000 tonnes par an de production du cuivre. Ce qui fait que c'est avec cette acquisition, on peut espérer que la GKMine pourra améliorer non seulement sa trésorerie, mais aussi sa production et ça pourra permettre à la GECAMINE d'être encore visible comme ce fut à l'époque.
Oui, mais de l'autre côté, on sait que la GECAMINE a été citée dans le cadre de la bonne gouvernance. Il a manqué de transparence, ce qui fait que le gouvernement n'a pas renouvelé son partenariat avec le FMI. Dans ce cas, on espère bien que cette transaction se soit faite en toute transparence.
Non, ne vous en faites pas. Une chose que vous devez comprendre, la GECAMINE est devenue une société commerciale. Donc elle pose des actes de commerce indépendants des actes que poserait le gouvernement. Donc le fait que la GECAMINE fasse cette transaction, cela cadre exactement avec ces nouvelles attributions dans le cadre de ces nouveaux statuts.
Mais l'État reste à 100% l'actionnaire majoritaire.
Oui, l'État reste l'actionnaire majoritaire. Donc, il reste l'actionnaire majoritaire, mais il reste la gestion.
Principal même.
Pardon ?
Il reste le seul actionnaire jusque-là.
Oui, il reste le seul actionnaire. C'est à l'État de pouvoir décider soit d'ouvrir le capital de la GECAMINE ou de ne pas l'ouvrir. Mais aussi longtemps que l'État ne trouve pas opportun de pouvoir ouvrir son capital. Et nous savons que dernièrement, avec l'adhésion de la RDC, disons, à l'OADA, il y a des sociétés unipersonnelles, comme les reconnaît les droits de l'OADA. Ce qui fait que, d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas violation ni de la loi, ni de quoi que ce soit.
Voilà, en tout cas, cela n'engage que vous, Monsieur Malingumu. On arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Je rappelle que vous êtes assistant à l'Université de Kinshasa, aux facultés des sciences économiques.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Le rendez-vous avec l'actualité économique, c'est lundi, 18h15, heure de Kinshasa, dans Écho d'économie, panorama économique, c'est samedi à 12h30, heure de Kinshasa. Vous pouvez également réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. Bon week-end à vous tous.